Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec Lambert Wilson. Il viendra nous parler du film Les Traducteurs qui sort en salle mercredi. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu après son journal. Et puis dans les indispensables, une série télé, la saison 2 de The New Pope, je l'ai bien dit, et de l'humour avec l'ouverture d'un nouveau comedy club créé par l'humoriste Fary. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est le journal de la culture, journal qui commence par la disparition du roi des nuits parisiennes. Il voyait la vie en bleu, Michou.
Je vous aime, vous le savez mes petits chéris. Ce n'est pas demain que je vais rater le train qui me ramène vers vous pour ce merveilleux rendez-vous. Je vous aime et vous adore, Philippe Michou.
Figure de Montmartre, célèbre directeur du cabaret transformiste qui porte son nom. Michou est décédé hier à l'âge de 88 ans. Il était incontournable des nuits parisiennes, toujours vêtu de bleu. L'excentricité à l'état pur. Il passait toutes ses soirées dans son cabaret. Il confiait qu'il aimait boire 2,5 bouteilles de champagne par jour, sa fontaine de jouvence, comme il aimait le dire. Il a côtoyé les plus grandes personnalités comme Alain Delon ou encore Jean-Paul Belmondo. Il était considéré comme une figure de la tolérance. Dans son livre Le Prince Bleu de Montmartre, il y révélait ses dernières volontés, être enterré dans un cercueil bleu et que le cabaret à son nom s'arrête à sa mort.
C'était cette nuit à Los Angeles, la cérémonie des Grammy Awards qui récompense donc les meilleurs artistes musicaux américains, cérémonie marquée par l'hommage au basketteur Kobe Bryant.
Une cérémonie qui s'est ouverte juste après l'annonce de la disparition du champion de NBA, surtout que la soirée s'est déroulée au Staples Center, le fief de Los Angeles Lakers, équipe de Kobe Bryant. La maîtresse de cérémonie, Alicia Keys, lui a adressé un message.
Nous sommes extrêmement tristes ce soir, parce que plus tôt dans la journée, Los Angeles, les États-Unis et le monde entier ont perdu un héros.
Voilà l'hommage d'Alicia Keys au basketteur Kobe Bryant. Et puis passons au palmarès. La grande gagnante, Philippe, c'est Billie Eilish.
I'm the bad guy.
Duh. Et oui,
le son.
Et oui, la chanteuse de 18 ans a remporté le Grammy Awards du meilleur album vocal pop, la révélation de l'année, la meilleure chanson pour Bad Guy, la chanson que vous êtes en train d'entendre, ouais. Et le meilleur enregistrement.
On continue du côté des cérémonies américaines, ça concerne les Oscars 2020, donc les Oscars. Une femme va diriger l'orchestre pendant la cérémonie.
Et figurez-vous que c'est une grande première.
Ah oui.
Et oui, c'est la première fois. Elle s'appelle Aimar Noone, c'est une compositrice irlandaise et on peut le dire, c'est déjà la grande gagnante des Oscars 2020. Elle s'apprête quand même à entrer dans l'histoire. Elle dirigera l'orchestre de la 92e cérémonie qui se déroulera le 9 février prochain. 42 musiciens qui joueront les extraits des 5 partitions nommées. Alors, elle ne sera pas là pendant toute la cérémonie. Rickey Minor, le directeur musical des Oscars, dirigera le reste. Et Aimar Noone, très anxieuse, a déclaré « Ces compositeurs sont mes héros et héroïnes qui seront assis dans le public pendant que j'interpréterai leur musique. C'est un honneur d'être là-bas, d'aider à normaliser quelque chose que je fais tous les jours. Des petites filles partout vont voir ça et dire « Je crois que je ferai ça plus tard, c'est ce que nous voulons ». Et Aimar Noone dirige 40 à 50 concerts chaque année dans le monde entier. Elle est également considérée comme la première chef d'orchestre au monde de partition de jeux vidéo. Et puis Philippe, nous venons de l'apprendre, on va passer du côté des Césars. Sandrine Kimberlin sera la présidente de la 45e cérémonie qui se déroulera en février prochain.
Et vous me donnez une idée, c'est un super sujet, la musique dans les jeux vidéo. Des concerts qui ont repris ce week-end à l'Opéra de Paris.
Après une grève historique contre la réforme des retraites d'environ un mois et demi, l'Opéra de Paris a rouvert ses portes avec les Contes d'Hoffmann donnés à l'Opéra Bastille. Avant le début du spectacle, l'intersyndicale a déclaré « Pour préserver l'intégrité économique de l'opéra, nous avons pris la décision d'assurer ce spectacle ce soir. Mais nous restons mobilisés pour le retrait de ce projet de loi. » Un discours entrecoupé d'applaudissements du public. Le spectacle d'hier après-midi a aussi été maintenu. 70 spectacles de l'Opéra de Paris avaient été annulés, ce qui représente près de 15 millions d'euros de pertes depuis le début de la grève, donc c'est-à-dire le 5 décembre.
Merci beaucoup Hélène Manarino, à tout à l'heure pour votre portrait inattendu.
À tout à l'heure.
Culture Média continue dans un instant, mais d'abord, Philippe, Hélène, j'ai un petit test pour bien commencer la semaine. Est-ce que Angèle, vous connaissez ?
Mais évidemment.
Oui, forcément, on connaît tous. Est-ce que vous l'avez déjà vue en concert, par
non.
contre ?
Non.
Ah, et ben, si vous en rêvez, Europe 1 a tout prévu en vous invitant au prochain concert de la chanteuse.
Mais vous savez, est-ce quel jour on est ?
Eh bien, on est le 27.
Oui, on est la Sainte-Angèle.
On est la Sainte-Angèle ?
Eh ben voilà.
Ah, mais vous êtes calé, c'est un truc de
ah bon, la Sainte-Angèle ?
Ouais. Enfin, j'ai lu ça hier, peut-être que c'est faux.
Peut-être que ça va
être. Peut-être c'est un énorme bad buzz sur la Sainte-Angèle, on verra ça.
Il va y avoir un démenti de Philippe Vandel.
En tout cas, vous pourrez être invité au prochain concert de la chanteuse à Nantes et Caen les 6 et 7 février prochains avec la personne de votre choix. Pour participer, c'est très simple. Vous envoyez Nantes ou Caen par SMS au 739-21, 75 centimes plus coût du SMS. Vous avez deux SMS pour jouer. Par contre, dépêchez-vous, le tirage au sort s'arrête ce jeudi soir. Alors n'oubliez pas, pour aller voir Angèle, il vous suffit d'envoyer le mot Nantes ou Caen au 739-21. Bonne chance.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Il est temps d'accueillir Philippe, votre invité culture, Lambert Wilson.
Surtout qu'il est déjà là, bonjour Lambert Wilson.
Bonjour
il est
Philippe.
Temps de l'accueillir, comédien, chanteur également, mais surtout comédien dans tous les styles. Vous avez tourné avec des grands auteurs, comme on dit, Téchiné, Zulowski, René Doyon, mais aussi des vrais gros films populaires, je dis ça de manière non péjorative, comme Jet Set ou Le Marsipulami. Cette fois, vous êtes à l'affiche d'un film qui sort mercredi, ça s'appelle Les Traducteurs. C'est un film de Régis Roinsart, film choral avec Sarah Giraudeau, Frédéric Chaud et Patrick Beauchaud, et des comédiens de 8 pays différents, donc des traducteurs. Mais c'est vous le patron, vous êtes un éditeur. Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Vous allez comprendre, auditeur, pourquoi je pose cette question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'histoire ?
Ah, je peux dire pas mal de choses sur l'histoire.
Allez-y.
En fait, il y a un énorme succès mondial, littéraire, dont on va sortir dans le monde entier le troisième épisode. Il est écrit en français, ce livre. C'est de l'ordre de Harry Potter ou de Millennium. C'est de ce niveau-là. Et mon personnage, l'éditeur, enferme 8-9 traducteurs pour éviter les fuites. Il va les enfermer dans un château. Et il va leur demander de abandonner tout moyen de communication. Ce qu'ils acceptent, c'est le deal. Ils s'enferment pendant 2 mois pour traduire ce succès mondial et éviter les fuites. Et il y a des fuites. C'est très simple. Ouais. Il y a des fuites. Je vais péter les plombs et je vais devenir un tortionnaire parce que non seulement on va publier sur Internet des extraits du livre, mais en plus on va me demander de l'argent. Et c'est le gros pactole pour lui, parce que c'est un succès mondial absolument énorme, et on sait que ça rapporte énormément d'argent aux maisons d'édition. Et tout le monde, en fait, va se soupçonner. Tous les traducteurs se soupçonnent. Ils sont enfermés dans un bunker où il n'y a rien, donc ils ne comprennent pas comment ce livre, ces morceaux, ces extraits du livre arrivent jusqu'à Internet.
On va entendre la bande-annonce. Je précise que la première voix qu'on entend, c'est la vôtre dans votre anglais parfait.
Ladies and gentlemen, I'm very proud to announce the final book of the Daedalus trilogy, The Man Who Did Not Want to Die.
C'est un best-seller mondial.
T'es prêt à enfermer tes traducteurs dans un bunker, à les traiter comme du bétail?
Ce travail commun de traduction pour une sortie mondiale simultanée est une première. Nous avons pris toutes les précautions du monde. Isoler les traducteurs, confisquer les portables, couper Internet.
Les 10 premières pages de Daedalus tome 3 ne t'appartiennent plus si tu ne verses pas la somme d'ici 24 heures. 100 pages supplémentaires apparaîtront demain sur la toile.
Lambert Wilson, vous êtes peut-être la personne la plus perfectionniste de ce métier. Vous écoutiez la bande-annonce et vous me dites, mais non, l'accent, il n'est pas parfait. J'entends
non,
un tout
parfait,
petit truc.
Il n'est pas parfait.
Qu'est-ce que vous entendez ?
J'entends une petite trace d'accent français, mais c'était ce qu'on voulait faire. C'est un éditeur international, français, qui parle beaucoup de langues. Et le film parle justement de cette tour de Babel. C'est-à-dire qu'en fait, ces traducteurs viennent de pays différents. C'est un petit peu une sorte d'image de l'Europe, plus la Chine, ouais. Représentée par Frédéric Chaud, très très bien d'ailleurs. Et on va jouer pendant tout le film avec les langues. Et je vais surprendre une de mes traductrices danoise en parlant à un moment donné danois avec elle, ce que je ne parle pas du tout, je vous rassure. Mais c'est vrai que j'aime bien être absolument perfectionniste sur l'utilisation de la langue anglaise, par exemple.
Et justement, le réalisateur Régis Roinsart vous a demandé de travailler sur la voix. Qu'est-ce qu'il vous a demandé ?
Je pense qu'il a surtout demandé une voix presque inhumaine. Il a supprimé toutes les respirations. Il se trouve que C'est moi qui ai la voix off du film, c'est moi qui m'ont commencé à raconter un peu l'histoire. Et il l'a un peu déshumanisé, il a essayé de m'empêcher... Vous savez pourquoi ? Parce que dans la vie, je soupire tout le temps, parce que la vie m'est très pénible.
C'est vrai.
Et je soupire tout le temps. Et je soupire en jouant, ça m'aide de me débarrasser de la tension. Et alors, en fait, ça gêne énormément, parce qu'il n'y a que des soupirs tout le temps. Si on additionne tous les soupirs que je fais dans un tournage. Donc, en fait, il me demandait de ne pas soupirer, presque de ne pas respirer. Il est méticuleux, très précis, très pointilleux. On se souvient de son merveilleux film populaire. Ouais. Et on sent qu'il adore ce concours de dactylo avec Romain Duris et Déborah François. Et il est un metteur en scène très, très, très méticuleux.
La chute du film est formidable, je ne peux pas la dire. Je peux juste dire qu'il y a une chute dans la chute. Et je n'avais jamais vu ça dans un dossier de presse. Il y a une note à l'attention des journalistes. Nous vous remercions de ne pas révéler aux spectateurs les rebondissements de l'intrigue et la résolution du film. Lambert Wilson, nous vous remercions de rester avec nous.
Ouais. Dans les traducteurs, quand les premières pages du fameux roman sont publiées, sur internet, la question qui revient sans cesse est: qui est à l'origine de la fuite ? Eh bien Lambert Wilson, vous allez vous poser cette même question dans quelques minutes quand vous allez entendre le portrait inattendu d'Hélène Manarino sur Europe 1. Alors restez bien à l'écoute.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Le portrait inattendu d'Hélène Manarino, c'est tout de suite Philippe Vandel.
Lambert Wilson, vous connaissez Hélène Manarino ?
Bien sûr.
Vous avez déjà entendu son portrait inattendu.
Pourquoi vous riez ? Mais je vous écoute le matin, bien sûr.
D'accord. Donc vous savez ce qui vous attend. Non, mais en même temps, vous ne savez pas ce qui vous attend. Hélène, bonjour. Je vous resalue.
Bonjour Lambert Wilson. Bonjour.
C'est à vous.
Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors vous avez peut-être envie de me répondre à cette expression de votre maman que vous reprenez à la perfection. Ah non, pas ça. Mais Lambert.
Attendez,
ah
déjà.
Non. Ah non.
Ouais, je vais pas le faire. Mais Lambert, Doudou, Bébert, tout
Nounou.
Va bien. Nounou, tout va bien se passer. J'aurais pu, c'est vrai, vous apporter un petit verre de Chablis pour l'occasion, ce que vous adorez. Mais bon, il est 10h22.
J'ai une réputation d'alcoolique maintenant, c'est terrible.
C'est dans tous les papiers.
Alors Lambert Wilson, vous êtes un homme 100% nature. Vous vivez au rythme des saisons. Au printemps, c'est l'excitation totale. Vous plantez des milliers de bulbes. Et à partir du 15 août, c'est le spleen qui commence. L'hiver, vous n'aimez pas ça. Comment est-elle composée d'ailleurs votre nature humaine, marquée par une jeunesse à la campagne, élevée avec des chats, des chiens, une nature d'expérimentation aussi. Vous aimiez ça, les expériences. Alors ça pouvait être observer les adultes, les écouter, résoudre les problèmes de grands, par exemple. Mais vous aimiez surtout créer vos propres expériences. Comme ce jour où vous avez décidé d'écrire un petit mot que vous avez placé dans une bouteille. Ce mot était le suivant. Au secours, mes parents m'ont fait prisonnier. Je ne peux plus sortir. Cette bouteille...
Je peux corriger ou pas ? Ouais. Tout à l'heure.
Non, vous pouvez.
Vous pouvez dire.
Non, j'ai dit, je parlais pas de mes parents, je disais, je suis prisonnier de Monsieur Wilson.
Oui.
Ce qui me faisait passer pour un monsieur n'importe qui. C'est-à-dire que c'était pas mes parents, c'était pas un enfant qui se plaignait de ses parents. C'était, j'étais enfermé par un individu.
Votre papa, George Wilson.
Oui, oui, Monsieur Wilson m'a enfermé, venait à mon secours et j'ai mis ça dans une bouteille de bière et dans la rivière.
Et cette bouteille, vous l'avez donc jetée dans la rivière située dans votre jardin. Et un an après, des promeneurs ont trouvé cette bouteille. Ils sont allés à la gendarmerie et les gendarmes sont venus.
Oui, parler à mon père.
Et oui, voilà. Et bien sûr, tout allait bien. Alors,
Lambert Wilson... Mon père était assez admiratif. Il a trouvé que l'imagination était au rendez-vous. Ça l'a plutôt fait marrer.
Lambert Wilson, des situations rocambolesques, vous en avez connu. Vous avez été invité à plonger avec un groupe d'études sur les coraux. Vous vous retrouvez au milieu des requins sans aucun problème. Rien ne se passe. Vous sortez de l'eau, vous jouez avec un chien et là, il vous mord et vous finissez à l'hôpital. Alors, il y a aussi votre nature joueuse. Cela vient de votre papa, Georges. Il aimait réinventer les règles des jeux classiques, style le cricket. Alors il avait ses règles spécifiques, sauf qu'au moment de jouer, tout le monde se trompait, et bien oui, personne ne comprenait rien. Et ce goût du jeu, vous le montrez surtout lors de dîners entre amis, des jeux nature d'ailleurs, sans rien, sans objet, jeux d'imitation, jeux de... C'est vrai qu'en disant cette phrase, c'est ce que je voulais dire. Et bien évidemment, vous en êtes le maître.
On a tous l'image.
Pourtant, la première fois que vous avez joué sur scène au lycée, les caprices de Marianne, vous êtes fait attaquer en mobylette dans la forêt avec une de vos amies et vous êtes rentré complètement paniqué. Jamais sans une pâtisserie. Vous aimez que l'on vous emmène devant les vitrines des plus beaux gâteaux, nature gourmande, gourmand de la vie aussi. Tous les dimanches soirs, votre papa faisait venir un orchestre dans votre village de campagne. Tout le monde était là et vous faisiez à manger pour tout le monde. Alors vous étiez en cuisine pour préparer votre délicieuse salade de lentilles. Si ce n'est pas gourmand ça, alors aujourd'hui, pour vous maintenir en forme, au-delà de vos 2 heures de sport par jour. Alors plus jeune, le sport c'était clairement pas votre truc, mais maintenant oui. Vous mangez tous les matins vos flocons d'avoine et une omelette au blanc d'œuf. Comme ça, vous êtes en forme.
Et j'étais en train de la manger quand j'ai été annoncé tout à l'heure.
Voilà.
Vous nous écoutiez à 9h10.
Absolument.
Vous avez entendu le teaser.
J'étais pas très présentable. Heureusement qu'il n'y a pas eu un plan sur moi à ce moment-là.
Le partage, la générosité, ça fait partie de vous aussi. Et vous êtes prêt pour ça, notamment participer à la vie du centre équestre petit. Vous piquiez des petits trucs comme des objets, de la nourriture pour les apporter au centre. C'était caché dans votre grand imperméable, Lambert Wilson. Véritable charmeur aussi, votre maman, Nicole, disait de vous, Lambert, même seul dans une pièce, il fera du charme à un pied de chaise. Votre maman que vous rendiez folle lorsque vous piquiez ses affaires comme ses pulls ou chemises. Mais finalement, votre vraie nature, Lambert Wilson, elle se lit aussi dans la musique avec ses 3 petites notes.
3 petites notes de musique ont plié boutique au creux.
Heureusement, je piquais pas les robes de ma mère, c'était simplement ses pulls et ses chemises.
Peut-être que par pudeur, elle l'avait pas dit. C'était juste les pulls et les chemises.
Ouais, c'était l'époque un peu comme ça unisexe, les
pulls en Shetland et les. Ouais. Ouais. 3 petites notes de musique d'Yves Montand, une chanson qui vous accompagnait partout, très présente dans votre famille, tout le monde la chantait, dans la voiture notamment, et justement le chant, toujours très présent. Alors dès que l'on arrive près de chez vous, on entend vos vocalises, notamment ça.
C'est pas moi ça.
Non, c'est pas vous, mais c'est une chanson que vous pouvez fredonner, Kurt Weill.
Ça, c'est Ukali, ça, oui.
Mais vous ne chantez pas ça à cette hauteur, si ?
Non, vous montez... été adapté à ma voix.
D'accord, vous ne montez pas dans les aigus comme ça.
Très belle, je monte dans certains aigus, mais pas ceux-là.
Même quand vous répondez au téléphone, on peut vous entendre aussi fredonner ça.
Morning ends,
ça c'est bizarre que vous connaissiez ça parce que je l'ai chanté sur scène. C'est une chanson de Stephen Sondheim qui s'appelle Losing My Mind que j'adore. Mais...
Alors c'est votre talent quand même la chanson. Vous auriez pu être peintre aussi. Vous adorez peindre et dessiner. Alors il ne faut juste pas trop d'objets car vous perdez tout le temps, vos clés que vous laissez sur votre scooter. Alors certains disent que les objets sont vos ennemis. Un homme nature, je vous le dis. Une nature qui vous joue parfois des tours, comme vos dernières vacances à l'île Maurice. Vous vouliez vous reposer au soleil et il a plu toute la semaine. Et vous êtes rentré malade,
récent,
comme un chien, plus fatigué que jamais. Mais ce sont les aléas de la vie, Lambert Wilson. Alors Lambert, peu importe la discipline, le contexte, vous restez un homme à l'état pur qui construit son jardin idyllique depuis plusieurs années et dans lequel on aime bien s'y planter.
Merci Hélène.
Merci, mais quelles sont vos sources Hélène ?
Mais si jamais. Je vous le dis, ce n'est pas drôle Lambert Wilson.
Non, parce que l'île Maurice c'est quand même très très récent.
Ouais.
Là, ça
je vous suis depuis le début.
Vous ne voulez pas nous dire la fin du film ?
La fin des traducteurs.
Non,
absolument pas.
Eh bien, Hélène ne donnera pas ses sources.
D'accord.
C'est comme donnant, ça. Donnant.
Vous restez avec nous, Lambert Wilson.
Avec plaisir.
Eh oui, Lambert Wilson est votre invité culture du jour, Philippe Vandel. Il reste avec nous jusqu'à 11h, parce que Culture Média continue, bien sûr. Surtout que Margot Barallon et Louise Bernard arrivent avec leurs indispensables. Alors, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Louise Bernard est là avec un nouveau Comedy Club à nous présenter, Margot Barallon avec une série et sa saison 2, et votre invité bien sûr, Philippe Lambert Wilson avec un nouveau film.
Oui, parce que Philippe c'est moi et Lambert Wilson c'est notre invité. Il joue dans Les Traducteurs qui est un film choral, il y a vous êtes un éditeur, il y a un bibliothécaire très étrange, plutôt un libraire très étrange, il y a 9 traducteurs qui sont enfermés dans une sorte de château dont les sous-sols sont un bunker dans lequel ils traduisent un livre qui doit sortir dans le monde entier parce qu'il est très attendu au même jour et ils sont tous enfermés pour qu'il n'y ait pas de fuite. Et je trouvais l'histoire absolument formidable, sauf qu'en plus, il y a un truc qui me séduit beaucoup, moi qui suis journaliste, c'est que ça part d'une histoire vraie, en tout cas d'un contexte authentique.
Ça part d'une vraie paranoïa moderne et qui est liée à Internet. Dan Brown, le grand auteur de, enfin, très populaire de Da Vinci Code, a enfermé effectivement ses traducteurs dans un château en Italie pour traduire Inferno, son livre. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas si ça a été cauchemardesque.
Il y en a deux qui sont morts, je crois.
En fait,
il y avait 12 traducteurs.
C'est ça le sujet, c'est la partie moderne du sujet, ouais. C'est cette paranoïa de tous les gens qui créent, que ce soit les musiciens, les auteurs, par rapport à Internet. Les fans des livres publient leur propre traduction, ce qui est le cas dans notre film, ouais. Et tout ça échappe aux auteurs. C'est ça qui est complètement fou. Par passion, non pas par destruction et non pas par appât du gain. Ils le font gratuitement parce qu'ils aiment énormément les œuvres originales. Simplement, les traductions échappent totalement aux éditeurs.
Et c'est totalement vrai. Un jour, il nous a raconté ça, Martin Solveig, le DJ, vous voyez qui c'est. 5h du matin, il dort, la police arrive, tambourine chez lui. Il y avait un morceau de Madonna qui avait été volé et on ne savait pas d'où venait la fuite. Or, il avait travaillé avec Madonna en studio et donc ils ont pris tous ses ordinateurs pour voir s'il n'était pas l'auteur de la fuite. Et quand on va débarquer la police à 5h du mat et qu'on est en caleçon et donner ses clés USB, il y a
c'est
quelque chose.
C'est à la hauteur de l'argent que ces gens font. C'est-à-dire que, bien entendu, le rôle que j'interprète d'éditeur, c'est avant tout un homme d'entreprise, c'est un patron, c'est un type qui a l'appât du gain et de l'argent et qui a perdu son âme en cours de route.
C'est plus puissant que ça, parce qu'à la base, c'était un type totalement désintéressé qui faisait ce métier pour l'amour des mots, si j'ai
disons
bien compris.
C'est un auteur raté, j'ai l'impression. Il a une passion pour la littérature et on va se rendre compte, effectivement, qu'il a eu des aspirations à écrire et que il a préféré le raccourci du succès financier. Il y a une amertume. C'est ça sa faiblesse. Son talon d'Achille, c'est celui-là. La frustration de ne pas être devenu un artiste. On a presque l'impression qu'il se venge, d'ailleurs, sur les auteurs.
Et ne racontez pas tout.
Non.
Dites pas qu'il se venge. Bonjour, Louise Bernard.
Bonjour, Philippe. Bonjour à tous.
Je l'arrête parce qu'en fait, j'ai envie qu'il continue à parler. Mais ce matin, vous nous emmenez chez Madame Sarfati. Alors, je ne connaissais pas cet endroit. C'est un nouveau lieu dédié au stand-up. C'est un comedy club qui a ouvert ses portes à Paris il y a quelques semaines.
Et le nom, Madame Sarfati, c'est évidemment une référence au personnage mythique, Elie Kaku. Voilà.
Vous verrez quand vous serez vieille, vous verrez. Vous serez toutes comme moi. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas grosse. Je suis dilatée. Oui, dilatée, oui. C'est normal quand on a eu 12 enfants comme moi. Oui, monsieur, 12. Et je les ai bien élevés. Et je les ai tous mariés, barakallah.
Et Madame Sarfati, c'est plus qu'un simple comédie club, c'est en fait un lieu d'art unique. L'art du stand-up, d'abord, vous ne verrez que des humoristes confirmés, de qualité, pas de scène ouverte, pas de débutants. Pendant près d'une heure et demie, 4 humoristes se succèdent avec un maître de cérémonie. Tous se sont déjà fait un nom dans le métier et tous ont déjà leur propre spectacle. Mais attention, la programmation est tenue secrète. Vous ne savez donc pas quels humoristes vous allez voir. On achète un billet pour l'amour du stand-up, pas pour tel artiste ou tel autre. Et puis c'est un lieu d'art unique car la salle en elle-même est une œuvre d'art. Au sens propre du terme, c'est le street artiste JR qui l'a imaginé. Mais vous pouvez chercher, vous ne trouverez ni photos, ni vidéos de l'endroit. Il parvient pour l'instant à rester secret, même sur les réseaux sociaux. Et alors, en attendant de vous y rendre, il va falloir faire fonctionner votre imagination. C'est Jennifer Soussan, la gérante du lieu, qui nous fait visiter.
Donc là, on va monter dans le fameux Comedy Club qui se situe au premier étage. Donc la salle, là, quand on arrive, on voit tout de suite la scène qui est tout de bois, 100% fait à la main, artisanale. Et ensuite, on a autour cette structure métallique qui est donc une alliance de matériaux recyclés. Le plafond, ça vient de New York. Et les murs, c'est les toits de Paris. Et donc ça, c'est un peu l'histoire du stand-up qui vient de New York jusqu'à Paris.
I think to myself, what a wonderful.
Vous êtes accueillis par du jazz dans une lumière tamisée, une petite bougie sur chaque table ronde où l'on s'assoit côte à côte. La chaleur de la décoration, mélange de bois et de cuir. Il y a une centaine de places, mais chaque spectateur n'est jamais très loin de la scène. Intimité, proximité, on se sent vraiment dans un petit cocon, très vite envahi par les rires.
Ça détonne, parce que d'habitude, les comedy clubs, c'est plutôt hard rock ou ambiance rap.
Exactement.
Qui a eu l'idée de créer ce comedy club?
C'est l'humoriste Fary, c'est la nouvelle star, c'est une star de la nouvelle génération de stand-uppers. Madame Sarfati, c'est son bébé, hein. hein, son projet mené de A à Z. Mais Farid préfère rester dans l'ombre. Jennifer, la gérante, m'a expliqué son choix.
Clairement, c'est son rêve d'enfant, hein, d'avoir son propre comédie club. Il souhaite pas être plus mis en avant que ça parce que il fait pas ça pour lui, mais pour le stand-up. Farid est quelqu'un de très généreux et de humble. Donc, aucun intérêt pour lui qu'on dise le comédie club de Farid. Ça ne lui sert en rien, au contraire. Lui, il veut que le stand-up soit reconnu, apprécié à son juste titre. Et du coup, sa personnalité fait qu'il n'a pas du tout besoin de plus de lumière sur lui et sur ce projet qu'il a mené avec toute une équipe.
Donc la reconnaissance du stand-up comme un art et un métier aussi, c'est pour ça que chez Madame Sarfati, les humoristes sont rémunérés, pas au chapeau comme c'est le cas dans la plupart des comédie clubs. Vous savez, c'est quand le public donne la somme de son choix à la fin du spectacle. Ici, ils sont payés au cachet.
Ça permet la professionnalisation de tous ces stand-uppers et la reconnaissance comme un vrai art et un métier et non pas juste quelqu'un qui fait des blagues le soir parce qu'il a... pas mieux à faire, quoi. C'est vraiment un métier. Les artistes travaillent dur, écrivent des spectacles et ont besoin de roder leur passage. C'est ce qu'ils viennent faire dans les comédie clubs. Et donc, ça nous paraissait absolument primordial qu'ils soient rémunérés.
L'entrée est donc payante pour le public, environ 20 euros. Mais avec l'assurance d'un spectacle de qualité, d'humour varié, dans un cadre assez incroyable, c'est quand même rare de passer une soirée dans une œuvre d'art. Mmh. Et puis on peut boire un verre, dîner sur ces petites tables éclairées à la bougie, à l'anglo-saxonne. Alors on se surprend à s'imaginer à New York ou à Montréal, au royaume des comédie clubs mythiques. Et tout le mal qu'on souhaite à Madame Sarfati, c'est un jour d'en faire partie.
Lambert. Est-ce qu'il y a un artiste par soir?
Quatre. Il y en a quatre par soir, c'est ça. Et ça change. Il y a même plusieurs sessions, ça s'appelle des plateaux. Donc ça change même entre deux plateaux, il y a quatre nouveaux artistes.
C'est ouvert tous les jours et c'est où?
Non, c'est pas tous les jours. C'est du mercredi au dimanche. Ouais. C'est à côté de Châtelet-Léal, à deux pas. Il faut réserver un peu à l'avance car ça a beaucoup de succès.
On réserve sur Internet. On tape Madame Sarfati et on tombe là-dessus. Voilà. Ou alors sur un sketch d'Elikaku, ce qui est jamais détestable.
C'est ça.
On sera très content. Vous aimez les spectacles comiques comme ça, Lambert?
Bah écoutez, le problème, c'est que Blanche Gardin a pris toute la place dans mon imaginaire du stand-up. Il n'y a plus de place pour qui que ce soit d'autre, c'est ça le problème. Blanche Gardin me fait tellement rire. Je l'ai vue à minuit en sortant de scène. Personnellement, je sortais de scène, elle a joué à la Scala en face de là où on jouait. Pendant un moment, je ne me redressais plus. C'est-à-dire que j'avais ma tête sur les genoux tellement je riais. Et je n'ai pas vu la deuxième partie du spectacle tellement je riais. Je n'avais même pas le temps de me redresser.
Vous l'avez au moins entendu, la deuxième partie.
Mais oui, tellement elle me faisait rire, je ne me redressais plus. Voilà, je n'avais même plus le temps de me redresser. Je l'adore totalement. Donc si oui, j'aime bien, mais pas toujours. Il faut que ça soit à ce niveau-là.
Quel hommage à Blanche Gardin. Et si on veut la voir, son spectacle est sur Netflix, je crois.
Mmh. Oui.
On va parler de série avec Margot Barallon tout de suite.
Ce lundi, Philippe Vandel reçoit Lambert Wilson, qui est à l'affiche du film Les Traducteurs. Mais Lambert Wilson, ce n'est pas que du cinéma, c'est aussi de la chanson. En 2016, il a repris les grands classiques d'Yves Montand. Du coup, on écoute tout de suite Les Grands Boulevards sur Europe 1. Un grand classique, très bonne matinée. Les Grands Boulevards, repris par Lambert Wilson, que vous retrouvez sur l'album Wilson chante Montand.
Europe 1.
Et tout est bien pensé, parce que justement, Lambert Wilson est votre invité ce matin, Philippe Vandel. Il reste avec nous jusqu'à 11h pour nous parler de son rôle dans Les Traducteurs qui sort ce mercredi. Et puis Louise Bernard et Margot Barallon sont aussi autour de la table. Alors à tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Ce matin, vous recevez Philippe Lambert Wilson, mais il y a aussi Louise Bernard et Margot Barallon qui vient nous parler de la saison 2 d'une série à succès.
Bonjour Margot Barallon.
Bonjour.
Ce matin, avec vous, on part au Vatican pour le grand retour d'une série diffusée sur Canal+.
Oui, souvenez-vous, en 2016, un grand réalisateur italien avait fait sensation. Dans le milieu des séries, Paolo Sorrentino présentait The Young Pope. L'histoire de Pie XIII, un jeune pape donc, incarné par l'acteur Jude Law. Eh bien, la suite vient de sortir sur Canal+. Ça s'appelle The New Pope. On retrouve Sorrentino aux manettes, bien sûr. Un casting toujours incroyable. Jude Law, donc, Cécile de France, Ludivine Sagnier et John Malkovich.
Et ça raconte quoi?
Alors, à la fin de la première saison, on avait laissé Pie XIII en fâcheuse posture après un malaise cardiaque.
Il y a maintenant 9 mois, Pie XIII est tombé dans un profond coma. Il est encore en vie, mais en même temps, il est mort. Vous devez désigner un nouveau pape. Je vous le redis, vous devez convoquer un conclave.
Le conclave va donc se réunir et c'est John Branox, le personnage incarné par John Malkovich, qui va s'installer sur le siège papal.
Donc on est face à une série religieuse.
En réalité, il est très difficile de ranger The New Pope dans une case. Évidemment, ça parle de religion, mais c'est aussi et même surtout une série sur le pouvoir. Le Vatican est un repère de manipulateurs avec le plus grand d'entre eux, le secrétaire d'État Voiello, qui n'hésite pas à faire chanter les cardinaux.
C'est du bluff. Une manœuvre électorale, ça peut effrayer le pape, un saint homme, mais pas moi. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai joué à ça, exhibé un dossier où j'avais marqué, par exemple, « Vie privée du cardinal Intel » en grosses lettres, ils commençaient alors à transpirer et faisaient tout ce que je leur demandais. Suivant les cas, dans le dossier, je mettais rien ou bien... Il m'arrivait d'y glisser une cinquantaine de calendriers des matchs du club de Naples.
Alors voilà, donc parfois The New Pope ressemble plus à une série de mafia qu'à une série religieuse.
Mais avec un pape anglais. Est-ce que c'est une critique de la religion, Margot ?
Alors c'est une critique de l'Église, ça c'est certain. Sorrentino s'appuie d'ailleurs beaucoup sur l'actualité. Par exemple, il y a tout un arc narratif dans cette saison avec les nonnes qui se mettent en grève parce qu'elles se sentent méprisées par les cardinaux.
Ah oui.
Elles aimeraient que les femmes aient plus de place au sein de l'Église. Et ça c'est une vraie question que ce qui se pose pour les institutions catholiques. Sorrentino n'a peur de rien, surtout pas du blasphème. Pour vous donner une idée, le générique de la série, ce sont de jeunes bonnes sœurs qui dansent devant une croix en néon sur de la musique électropop. Voilà, on n'est pas vraiment dans l'ambiance grenouille de Benité.
Il y a un peu d'anachronisme.
Un peu, alors c'est parfois même un peu too much, mais on sent quand même que Sorrentino a aussi beaucoup de respect pour la religion catholique et ce qui l'intéresse, ce sont avant tout les êtres humains qui y croient. Et il montre comment même le plus croyant d'entre eux, en tout cas en théorie, le pape reste un homme avant tout. John Branox, ce pape britannique, il doute en permanence. Il doute d'être à la hauteur de la tâche, d'être fait pour ça. Il doute même d'être aimé de Dieu. Malkovich incarne d'ailleurs superbement ce pape très touchant. C'est peut-être aussi une façon de rappeler que la religion doit aller avec le doute, parce que si elle se conjugue avec une certitude totale et absolue, ça ne peut déboucher que sur le fondamentalisme.
C'était le petit édito de Margot Barallon. Merci New Pope, c'est sur Canal+, il y a combien d'épisodes ?
Il y en a 9.
Ça vous tente ? Vous êtes fan de séries et de celle-ci en particulier ? Enfin, est-ce que celle-ci vous tente, Lambert Wilson ?
Je ne l'ai pas encore vu, mais voilà. je viens de voir le film qui semble être une série, mais c'est un film sur Netflix qui est Les Deux Papes, avec Anthony Hopkins et Jonathan Pryce. Je vous recommande de voir ce film, c'est extraordinaire. C'est sur la rencontre qui est fort probable entre celui qui va devenir le pape François et celui qui le précède.
Benoît XVI, Ratzinger.
Ratzinger, et c'est un film extraordinaire aussi sur, sur l'Église, le pouvoir, le passé de ces deux papes. Et c'est absolument extraordinaire. Donc, en fait, ce sujet de la religion, c'est passionnant au niveau dramaturgique. C'est des vrais enjeux, parce qu'il y a des millions de croyants, il y a une responsabilité, et puis des choix politiques qu'ils ont à faire tout le temps. Donc, la série m'intrigue, mais allez, regardez si vous n'avez pas vu Les Deux Papes sur Netflix.
Vous êtes bien dans Culture Média avec notre troisième chroniqueur qu'on vient d'engager ce matin, qui est Lambert Wilson, un talent assez exceptionnel, et tout ça, sans notes, sans fiche.
La dernière partie de Culture Média arrive dans un instant, et pour cette fin de semaine, c'est Lambert Wilson qui est avec nous ce début de semaine, alors ne bougez pas sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Suite et fin de Culture Média avec toujours autour de vous Philippe Vondel, Louise Bernard, Margot Barallon et bien sûr votre invité Lambert Wilson qui est à l'affiche du film Les Traducteurs qui sort ce mercredi.
Exactement, le traducteur, le réalisateur a expliqué dans une interview qu'il y avait 3 films dans le film et dont notamment un mot que j'ai appris mais que je vous laisse prononcer Lambert Wilson avec votre accent anglais. Il y a dans ce film un...
On ne dit pas il y a un, non, c'est un, ce film est un whodunit.
Voilà, un whodunit, ça veut dire qui l'a fait.
Qui l'a fait, oui. Alors en français, souvent on dit un cluedo, mais le cluedo, j'ai toujours l'impression que c'est un peu plus dans une maison, avec des... c'est un petit peu démodé, le cluedo. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une tradition qui n'est pas très française, celle du whodunit, ou pourquoi ? Il y a, en Angleterre, la reine de ça, c'était Agatha Christie. Ouais. Ça a donné naissance à une série de films qui a aussi été adaptée par les Américains. En France, on a un petit peu sauté la case. On a une petite méfiance pour le genre. On ne les fait pas très bien, ces films-là. Et là, le film, il est réalisé extraordinairement par Régis Roinsart, assez luxueusement, parce que pour les jouer les Européens, il a pris quand même des super acteurs dans chacun dans leur pays, comme Scamarcio, l'Italien, qui est quand même un très très grand acteur qu'on a vu justement chez Sorrentino, chez plein. Sitzebabet Knudsen, qui est l'héroïne de eh oui, Sitzebabet Knudsen.
Vous avez tous les accents comme ça, Lambert Wilson, parce que déjà on est impressionné, on se sent tout petit, mais si vous nous faites toute l'Europe.
Non, mais parce que là, elle est mémorable. Elle a joué dans l'Hermine, elle a joué en France dans plusieurs films, et surtout elle était l'héroïne de Morgan, la série danoise.
C'est amusant, dans votre dernier film, Au bout des doigts, vous étiez déjà le patron d'une entreprise culturelle, sauf que ce n'était pas une maison d'édition, vous étiez le patron du Conservatoire National Supérieur de Musique.
Oui.
On vous voit bien dans ces rôles. Ou c'est vous qui vous voyez bien dans ces rôles.
On pense que je suis attaché à la culture et que je réfléchis, alors que c'est complètement faux.
C'est pas vrai, votre nom c'est Radio Beerfoot.
Non, j'aimerais bien faire un rôle de paysan, mais personne ne m'imagine en paysan, c'est marrant. Hein. Alors oui, la culture m'intéresse, oui, je vais au théâtre, à l'opéra, etc. Mais en fait, je ne vais pas souvent au cinéma, c'est marrant. Il y a énormément de films très très connus que je n'ai pas vus, mais des choses énormes.
Hein. Par exemple
Je ne sais pas, Molière de Ariane Mouchkin, qui est un truc que tous les acteurs de théâtre devraient... Moi qui joue Molière en ce moment, Le Misanthrope, je devrais avoir vu Molière d'Ariane Mouchkin, qui est un film énorme, très important, je ne l'ai pas vu. Plein de choses comme ça.
Autre actualité, parce que j'aimerais qu'on parle de votre actu, on va vous voir en mars dans De Gaulle, le film de Gabriel Le Bomain, avec Isabelle Carré dans le rôle d'Yvonne, qui n'est pas encore tante Yvonne, qui est la jeune Yvonne. Ce n'est pas un biopic qui raconte sa vie. Vous jouez quel De Gaulle ?
On joue le De Gaulle qui apparaît vraiment aux yeux des Français, c'est-à-dire c'est mai 40, il a gagné quelques batailles dans la bataille de France, on lui demande de renoncer à lutter contre les Allemands, il va prendre quelques contacts avec Churchill, puis fuir à la France et lancer son appel. C'est un mois dans la vie de De Gaulle, et c'est De Gaulle qui vraiment, dont on ne connaît rien, pas son image, pas sa voix, et qui apparaît par la radio et un peu dans les pas les médias, simplement la radio.
Comment vous faites sa voix ? Vous le faites grandiloquent tel qu'il a été ? Parce que je sais qu'il y a 3 heures de maquillage par jour avec du latex, de la tête de De Gaulle, mais pas la voix de De Gaulle aussi.
J'ai l'intonation de De Gaulle dans l'appel, cette espèce de démesure dans le phrasé, cet aspect du tribun, mais j'ai renoncé à l'imiter dans le quotidien, parce que je pense qu'il ne parlait pas comme il parlait devant des foules dans la vie privée.
Et c'est vrai que quand vous étiez petit à un arbre de Noël à l'Élysée et que vous l'avez vu en personne, le général ?
Mais oui, et puis j'ai toujours une invitation qui est encadrée dans ma maison.
Vous aviez quel âge ? Il vous a fait quel effet ?
J'étais en 65, j'avais 8 ans, et ce qui était rigolo, c'est que mon père pensait que l'invitation était pour lui, et il a fait téléphoner au service de l'Élysée, parce que lui, il était directeur d'un théâtre national, donc il était invité souvent à l'Élysée. Et il s'est dit, ils se sont trompés, c'est pas pourquoi mon fils qui a 8 ans, il est invité à l'Élysée, qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Et j'avais un Bristol, j'ai gardé ce Bristol doré sur tranche. Monsieur, le général de Gaulle et madame de Gaulle vous invitent à le temple de Noël.
Vous m'avez pas dit quel effet vous a fait de Gaulle ? Vous en avez gardé un souvenir ?
Il était un peu loin, mais c'était un personnage mythique, héroïque, un petit peu comme un roi shakespearien, comme un personnage de théâtre.
La tournée du Misanthrope, ça continue ?
Ça continue jusqu'à
mi-avril. Il y a tellement d'actu, je suis obligé de vous interrompre, parce que sinon on est là jusqu'à... Andromanov ne pourra pas faire son émission. Et vous avez donné aussi une série de concerts avec l'Orchestre Symphonique de Lille, vous chantez les chansons de Kurt Weill, qui est le créateur de l'opéra Katsu, qui a été éclipsé par Butler...
Non, mais ça, c'est pas moi, c'est une des chansons qu'on entend. Alors,
Moi, je voulais vous faire entendre Alabama Song, repris par Bowie.
Ah ouais ?
Parce que vous reprenez Alabama Song.
Absolument. J'ai peur de cette chanson.
Pourquoi lui ?
Mais surtout, c'est pas Alabama Song qu'on vient d'entendre. Le tempo est tellement lent que j'arrivais pas à le reconnaître.
J'aurais jamais cru expliquer à Lambert Wilson que c'était une chanson de Kurt Weill. Non, c'est un moment dans ma vie. Vous avez vu De Gaulle, moi je vous ai mis un peu en défaut, pensais pas que ça m'arrive.
Je voudrais corriger une chose par rapport à l'Orchestre de Lille. Lille, c'est à Lille, l'Orchestre de Lille, mais en fait on l'a créé avec l'Orchestre des Pays de la Loire, et on sera à la Philharmonie à Paris le 28 mars avec l'Orchestre des Pays de la Loire, et après dans plusieurs villes avec à chaque fois l'orchestre local.
Les Misanthropes, si on veut vous voir, c'est où ? Ça tourne toujours.
La semaine prochaine, on fait Carcassonne, Béziers. Oui, c'est dans toute la France. Là, j'ai vraiment du mal à vous dire, tellement on bouge jusqu'à mi-avril. On a le temps de le voir.
Eh bien, il n'y a pas de site lambertwilson.com.
Si !
Il existe vraiment ?
Il existe.
Tous les jours, j'apprends des trucs ici.
C'est très année 2000,
mais tellement.
Il existe.
Vous avez un GSM aussi ?
C'est un ami qui le fait, et alors il y a tous les renseignements.
Formidable.
Et on a des extraits de tous les films que j'ai fait.
D'accord.
Ça, c'est pas mal quand même.
J'espère qu'on retrouvera cette interview sur le site. On peut le retrouver en podcast sur europe1.fr. Merci Lambert Wilson.
Merci,
je rappelle,
Philippe.
Les traducteurs, films de Régis Roinsart, ça sort mercredi. Merci à tous. Merci Margot Barallon, merci Louise Bernard, merci Justine. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Il y aura Julien Bugier qui va présenter une grande soirée spéciale consacrée à l'antisémitisme en France. Elle sera sur France 2 cette soirée. Et ensuite, Danny Boone à l'affiche du film Le Lion. À demain.
Merci Philippe Vandel. Dans un instant, comme tous les jours, vous retrouvez Anne Roumanoff et son équipe qui reçoivent aujourd'hui Rock Voisine et Nina Bouraoui.